France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque lundi, les carnets s'attaquent à un nouveau département. C'est la Haute-Vienne qui prend toute la lumière cette semaine. Le jeu des 1000 euros est installé à Nexon. Des initiatives autour de Limoges, donc. Et on commence par la porcelaine, identité forte de ce territoire limousin. Un atelier de céramique installé dans l'ancienne auberge d'un petit village se démène pour mettre en valeur l'artisanat d'art en général. L'auberge était à l'abandon, elle redevient un lieu de vie en montrant des artisans d'art au travail. La présidente de l'association Ouvrage est mon invitée dans un instant. Mais avant cela, ouvrons la presse. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Un nouveau numéro de Village vient de paraître, magazine partenaire des carnets de campagne, et le collectif est à la une. Bonjour Axel Puig.
Bonjour Dorothée.
Rédacteur en chef de Village, en duplex de Toulouse, dans les studios d'ICI Occitanie. Alors vous signez ce dossier sur les collectifs paysans avec Marine Thoman. Cultiver la terre à plusieurs, ce n'est pas neuf, bien sûr, mais il est d'usage de travailler en famille, dans les fermes. Ce qui est nouveau et qui se développe de plus en plus, ce sont les fermes collectives, où l'on s'associe avec des personnes extérieures à sa famille. Vous donnez quelques exemples dans ce reportage, et notamment la chèvrerie, qui s'écrit avec le verbe rire, la chèvre rit. C'est près de Granville dans la Manche. 6 personnes travaillent dans cette ferme, dont 5 habitent sur place. Et vous écrivez que l'ambiance était tout autre il y a 6 ans à peine, Axel.
Oui, c'est un très bel exemple qui fait l'ouverture de ce dossier. Donc on est à Granville, en Normandie, pas très loin du Mont-Saint-Michel. C'est Manon et Emmanuel qui avaient créé cette ferme. Et ils étaient au départ tout seuls. Et puis petit à petit, le troupeau a augmenté. Et en même temps que le troupeau, la charge de travail, évidemment, a également augmenté. Et puis sont arrivés les enfants, etc. Ils ont vite compris, c'est ce qu'ils nous ont raconté, ils ont vite compris qu'ils pourraient pas arriver à continuer tout seuls. Et donc ils se sont mis en quête d'associés, non pas au sein de la famille, mais en effet, d'autres personnes qui souhaitaient mener un projet agricole. Ils se sont retrouvés à donc de 2, ils sont devenus 4, puis 6 aujourd'hui. La ferme qui au départ était une ferme d'élevage de chèvres, c'est devenu une ferme pédagogique ouverte au public, avec une multitude d'activités aussi qui se sont développées à la faveur justement de ces nouvelles arrivées. Donc on a aujourd'hui une ferme pédagogique où on cultive aussi des légumes, où on fabrique des fromages de chèvres, où on a des arbres fruitiers, des lapins, des poules, des cochons, bref, une vraie ferme vivrière.
Voilà, la chèvrerie dans la Manche que j'ai eu la chance de visiter et qui est très très agréable à visiter en famille, je le conseille au passage. La charge de travail était devenue trop lourde hein, pour ces deux paysans et ils ont décidé de chercher des associés plutôt que d'embaucher.
Oui, c'est ça. En fait, on a vraiment la volonté aujourd'hui dans ces collectifs de chercher du travail collaboratif et surtout de partager ce travail et de partager également la charge mentale de la ferme. Oui. Donc, rajouter du salariat, toutes les fermes collectives qu'on a rencontrées nous expliquent que c'était pas une option parce que ce qu'ils veulent avant tout, c'est partager vraiment cette charge et puis mutualiser des moyens. Donc, mutualiser des moyens financiers, mais aussi mutualiser des compétences, des envies, etc.
Le premier avantage de l'installation collective, c'est ce que vous écrivez dans ce dossier, c'est l'accès au foncier, Axel.
Oui, bah aujourd'hui, bon, c'est pas nouveau. Hein, cette crise agricole, elle est renforcée en plus par des difficultés d'installation. On a entre 2010 et 2020, on a eu 100 000 exploitations qui ont disparu, et tous les acteurs de l'installation nous l'expliquent très clairement hein, qu'il y a aujourd'hui des fermes qui sont trop grandes, trop spécialisées, trop capitalisées, et donc du coup très difficiles à transmettre. L'option collective est évidemment une solution d'une part parce que ça permet à plusieurs d'augmenter son pouvoir financier, donc de pouvoir acquérir plus facilement du foncier. C'est le cas notamment d'une ferme qui est située en Ariège, un collectif qui a pu acheter 32 hectares, ce qui n'est pas facile à faire quand on est tout seul.
Alors on parle d'installation collective, je le précise, quand au moins une personne n'a aucun lien de parenté avec les autres hein, parmi les associés de la ferme. Et effectivement, l'installation collective permet aussi de mener des projets qui sont plus ambitieux, c'est ce que vous écrivez, en citant cet exemple de la ferme des croquants en Ariège.
Oui, c'est ça. Alors là, on est à l'abbatie de Besplas en Ariège. C'est une bande de copains de l'école d'agronomie de Montpellier qui se sont rassemblés. Ça faisait un petit moment qu'ils cherchaient un projet. Et ensemble, ils ont pu, du coup, se lancer dans ce projet avec une vraie ambition agricole, dans le sens où il y a un atelier céréal pour fabriquer de la bière, de la bière également des produits de boulangerie. Il y a un atelier maraîchage pour faire du légume. Il y a des poules. Il y a aussi un bar qui est ouvert l'été, qui fait guinguette, etc. Il y a de la vente à la ferme, etc. Avoir des ateliers diversifiés qui solidifient également le modèle économique de la ferme, tout ça, le collectif le permet.
Oui, voilà, parce qu'on est tout simplement plus nombreux, ça permet d'être plus solide économiquement parce qu'on mène plusieurs combats en même temps, finalement.
Oui, et puis aussi on mutualise les moyens et aussi les compétences, parce qu'aujourd'hui dans le monde agricole, on demande aux agriculteurs de savoir tout faire. Mmh. Il faut qu'ils sachent faire de l'élevage, il faut qu'ils sachent remplir des dossiers PAC, il faut qu'ils sachent faire de la comptabilité, etc. Et ben dans les collectifs, on va mutualiser aussi les compétences. Donc il y en a un tel qui sera meilleur sur l'animal, une telle qui sera plus forte sur le végétal, un autre qui sera peut-être, sait-on jamais, passionné par les dossiers PAC.
Et la politique et voilà, agricole commune, hein, la PAC, voilà. S'il y en a un qui est fan de paperasse, évidemment, il est bienvenu. Oui.
Voilà, exactement.
L'intérêt majeur de ces installations collectives, c'est aussi le temps libre que ça permet de dégager.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on estime que 80% des agriculteurs ne travaillent le samedi et 60% travaillent le dimanche. Donc très peu prennent aussi des vacances. Donc cette installation collective permet de gagner du temps libre, de prendre des congés. Et voilà, on a rencontré par exemple Arthur à la ferme des Croquants qui nous expliquait que c'était assez important de savoir que s'il devait partir en week-end ou prendre une semaine de vacances, il y aurait quelqu'un pour s'occuper des poules ou arroser le potager. Dans cette ferme, d'ailleurs, ils sont à tour de rôle. Ils assurent une astreinte de 2 heures par week-end. Mais le reste du temps, ils ont leur week-end de libre et 5 semaines de congés.
Ah oui, 5 semaines de vacances, c'est très, très rare en agriculture.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est une vraie chance et c'est un élément qui peut inciter les jeunes à s'installer en agriculture.
Plus résiliente, plus solide, plus écologique et plus variée, les fermes collectives portent une autre vision de l'agriculture, en même temps qu'une réponse à la détresse du monde paysan. C'est un dossier à lire dans le nouveau numéro du magazine Village Agriculture. L'union fait la force. Merci beaucoup Axel Puig.
Merci beaucoup Dorothée.
Et à bientôt. Au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Nous voici à Chessou, petit village à l'est de Limoges. Je salue Denis Chessou, bien sûr, au passage. C'est au de mon amour, le dimanche, sur France Inter. Dans ce village de 250 habitants, on célèbre l'intelligence de la main. Une association, baptisée Ouvrage, se démène pour valoriser l'artisanat d'art. Yaël Malignac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de cette association Ouvrage, céramiste de profession. L'atelier de céramique créé avec votre mari s'appelle Passage Secret. Vous avez installé cet atelier dans une ancienne auberge de Chessou qui était à l'abandon. Et vous avez eu envie d'en refaire un lieu de vie, d'en refaire un lieu de passage, c'est ça ?
C'est exactement ça. Tout y était dans cet espace, déjà la taille de la bâtisse, et puis ce lieu de vie qui avait toujours été et qui malheureusement, depuis 3 ans, ne trouvait plus preneur pour y faire son métier de base, qui était bar, restaurant, salle des fêtes anciennement, etc. Et nous qui étions dans notre petit passage secret, Guillaume et moi, là le lieu nous a vraiment donné envie de l'ouvrir à l'artisanat d'art, aux artisans et au savoir-faire.
Vous organisez très bientôt les 11 et 12 avril les journées européennes des métiers d'art. Quel est le programme ? Qu'est-ce qu'on va voir précisément pendant ces 2 jours ?
On organise sur 2 jours un temps très festif. Les métiers d'art, c'est des mains au travail, c'est qui travaillent des matières qu'on apprend sans arrêt, tout au cours de notre vie. Elles nous laissent tomber par moments, elles nous émerveillent à d'autres. Et donc, c'est ça, sur ce week-end-là, qu'on veut montrer aux gens. Donc, on les accueille sur un temps vraiment long, c'est-à-dire qu'il y a tout cet espace où ils peuvent circuler, échanger avec nous. Cette année, on va avoir des tas de savoir-faire, du tournage sur bois, de la vannerie, des meubles en carton, du feutre, du tissage, de la relure, du crochet, et nous et un autre céramiste qui présentons de la porcelaine et du grès. On a même une factrice d'orgue de Barbarie qui va être pour l'animation musicale. Et justement, l'idée, c'est que ils nous voient sur des moments où on parle, d'autres moments où on manipule nos matières, et prendre le temps après de se reposer dehors, de voir cet orgue de Barbarie, il y a d'autres animations musicales, de se poser, de manger une crêpe, et puis de revenir à nouveau à l'intérieur et d'échanger avec d'autres artisans. Enfin, vraiment de passer la journée avec nous pour voir que rien ne se fait dans la précipitation. Tout est une question de temps, de tempo et de matière.
Limoges et ses alentours tours sont très liés bien sûr à la porcelaine, hein, mais le travail de la porcelaine, ce n'est que l'un des métiers d'art qui font l'identité de votre territoire, Yaël. Est-ce que c'est la raison pour laquelle cette association Ouvrage a été créée ?
Exactement, il y a la porcelaine évidemment, il y a l'émail sur cuivre qui est un autre grand savoir-faire de Limoges et de la région, le cuir très très présent, et autour de ça, c'est une région où on a la chance d'avoir de l'espace, de pouvoir trouver pour pas grand-chose une grange à restaurer en atelier, la nature autour pour pouvoir avoir l'esprit à la création, et donc on a une richesse d'artisans d'art des plus grands qui travaillent à l'international, aux tout petits artisans qu'on trouve uniquement en local. Et en fait, c'est vraiment, on s'est rendu compte, on est très éparpillés, le territoire est grand, mais on a tous à cœur de sortir de nos ateliers, de se retrouver, et ensemble on est plus forts, pour finalement montrer toute cette passion qu'on a au bout des doigts, dans le cœur, voilà.
Et d'ailleurs, le thème des Journées européennes des métiers d'art cette année, le cœur à l'ouvrage.
Exactement, ils ont pensé à nous, ils sont merveilleux.
Vous nous avez cité un extrait du Petit Prince en préparant cette émission, Yaël. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Quel lien faites-vous avec votre métier ?
Les métiers d'art, on sait tous, les artisans, c'est très très mal pendant le Covid. Ça a été très compliqué de se retrouver non essentiel, de se retrouver tout seul dans nos ateliers, justement très éloignés les uns des autres, éloignés du public auquel on vend. Et il y a eu une énorme remise en question de pourquoi on fait ça. C'est chouette de travailler la matière, mais quelle est la différence entre un hobby et en faire nos vies? Et finalement, ça fait partie, de ces... Merci le Petit Prince, merci Antoine de Saint-Exupéry de remettre à sa juste place par ces phrases tellement simples et tellement éclairante, de dire c'est véritablement utile puisque c'est joli. Oui, bien sûr, le beau, on en a tellement besoin, c'est tellement essentiel, mais c'est essentiel autrement, mais se réunir aussi, réunir les gens autour de la notion de beauté, de la culture des matières, de la culture de la création de chacun et de sa vision du monde à travers ses créations, c'est tout ça que ça réunit, ce véritablement utile puisque c'est joli.
Et si on devait garder un seul geste de votre métier, celui de céramiste, ce serait lequel ? Lequel est le plus joli, justement ?
Moi, je dis toujours que je danse avec ma porcelaine. Parce que, en fait, il y a vraiment une douceur. Les doigts doivent juste frôler la matière, parce que la porcelaine est très, 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 très susceptible, et que dès qu'on la tord un tout petit peu, et ben après, elle garde une mémoire de forme et elle s'effondre dans le four. Donc, en fait, on est obligé de l'accompagner dans un mouvement. Donc, c'est ses doigts tout doux et qui dansent avec elle pour lui faire prendre une forme qu'après, elle va accepter de conserver. Voilà.
La porcelaine est susceptible. Ça la rend très humaine.
Ah oui. Exactement.
L'association Ouvrage au pluriel, c'est donc à Chessoux en Haute-Vienne. Et je rappelle que les Journées européennes des métiers d'art, ce sera les 11 et 12 avril dans votre auberge, dans votre atelier.
Exactement.
À Chessoux. Un grand merci, Yaël Malignac.
Merci Dorothée, merci beaucoup.
Bonne journée, au revoir.
Bonne journée à vous, au revoir.